Vous écoutez RJB, il est midi 15.
RJB Info.
Le journal Séverine Boé.
Les romans de Bienne ont décroché un siège supplémentaire hier lors des élections au conseil de ville. La progression est-elle trop lente? Nous en parlerons avec Virginie Borel, la directrice du forum du bilinguisme. Nous reviendrons également sur les votations fédérales qui se sont tenues hier. Nous tenterons de départager les gagnants des perdants. Nous prendrons ensuite la direction des États-Unis. Donald Trump fait les gros titres. Il n'aurait payé que 750 dollars d'impôts fédéraux en 2016, année de son élection, et aussi en 2017, avant ça, le président américain n'aurait payé aucun impôt durant 10 des 15 années précédentes. Les nuages vont gentiment couvrir le ciel de la région. Des averses seront possibles en fin de journée. Les températures pourront grimper jusqu'à 15 degrés. C'était l'un des enjeux des élections municipales de Bienne hier, le sort des francophones et leur représentation au sein des autorités. Au final, c'est une légère progression des forces romandes qui a été observée avec 17 sièges sur 60 au conseil de ville, soit un de plus que lors de la dernière législature. Pour la directrice du forum du bilinguisme, l'avancée peut paraître dérisoire, mais c'est un pas en avant qui compte. Virginie Borel.
Alors effectivement, on passe de 26 à 29% de francophones au conseil de ville. Certains pourront estimer que c'est peu, que la progression est lente. Mais finalement, j'ai envie de dire que pour toutes les questions de bilinguisme, il faut y aller pas à pas. Et puis ne pas avoir l'espoir que tout change radicalement d'une élection à une autre. Donc finalement, le fait que la progression soit présente, je pense, est totalement satisfaisante, avec en plus le maintien des deux sièges francophones au municipal.
Donc c'est un pas en avant, comme vous dites, hein, peut-être un petit pas. Est-ce que ça signifie quand même qu'on est dans une évolution constante?
Écoutez, oui, parce que finalement, ce sont aussi les chiffres de la population biennoise qui sont dans une évolution constante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on compte 43% de population francophone à Bienne, qui en tout cas est administrée en français. Et c'est un chiffre qui n'a cessé de croître depuis 20 ans. Et c'est vrai qu'au conseil de ville, on aimerait que cette tendance s'adapte, coïncide avec ces 43%. En étant à 29%, on n'est pas dans le même parallèle, mais on voit quand même qu'il y a une progression. Et effectivement, on espère que ça va se renforcer de cette manière-là à chaque fois que ce sera possible.
Virginie Borel répondait à Olivier Zano. La directrice du Forum du bilinguisme remarque que les listes romandes n'ont pas été choisies massivement. Les électeurs se sont plutôt rabattus sur des partis ou des individus. Un constat qui peut expliquer en partie la progression mesurée des francophones, selon elle. Energy Service Bienne va adapter la rétribution pour les producteurs de courant indépendants. Le distributeur d'énergie l'a indiqué ce matin dans un communiqué. Les tarifs vont donc être rehaussés. ESB s'engage ainsi pour la production locale et décentralisée dans un objectif de durabilité. Un accident de la route est survenu ce matin un peu avant 11h sur la 16 à la sortie Péry-la-Haute. Une voiture et un camion de livraison qui circulaient en direction de Tavannes sont entrés en collision. Aucun blessé n'est à déplorer selon la police cantonale bernoise. La circulation a été interrompue pendant une demi-heure environ. À Saint-Imier, la 17e édition de Noël pour tous n'aura pas lieu en 2020. Le Cercle de l'Union de Saint-Imier l'a indiqué ce matin dans un communiqué. Cette décision a été prise dans l'intérêt des participants et des organisateurs après l'évaluation de la situation sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Les organisateurs espèrent pouvoir accueillir leurs hôtes le 24 décembre 2021. Qui sont les vainqueurs du quintuple scrutin d'hier? Qui sont les perdants? La multiplication des objets soumis au peuple fait que les partis ont tantôt été dans le camp des vainqueurs, tantôt dans celui des vaincus. La gauche a failli faire un carton plein à 8 630 voix près et l'adoption de justesse des nouveaux avions de combat. Celles qui ont beaucoup gagné hier, ce sont les conseillères fédérales Karine Keller-Souter et Viola Amherd, pendant que les partis de droite se réveillent avec la gueule de bois. L'analyse à Berne de notre correspondant Serge Jubin.
Des vainqueurs au féminin hier, d'abord la démocratie, plombée par les restrictions liées au Covid depuis le printemps. Plus de 3,2 millions de votants ont exercé leurs droits, près de 60% de participation, c'est remarquable, avec un suspense insoutenable. Et cet écart infinitésimal de 8 670 voix pour les nouveaux avions de combat, voter redeviendrait-il sexy ? En plus de la gauche, il y a deux autres vainqueurs, deux conseillères fédérales, la libérale radicale Karine Keller-Souter qui a mené une campagne d'une grande classe et d'une belle efficacité contre l'initiative de limitation de l'UDC. Elle a évité les pièges, a eu un discours clair, positif, sans fustiger l'adversaire. Même si elle a perdu quelques dossiers dernièrement au Parlement en raison d'alliances contre nature gauche-UDC, Karine Keller-Souter est bien la capitaine du Conseil fédéral. L'autre ministre vainqueur, c'est Viola Amert. Elle a récupéré un département que ses prédécesseurs UDC avaient laissé en piteux état. Wally Maurer avait perdu avec le Gripen en 2014. Guy Parmelin avait engagé le processus d'achat de nouveaux avions par la voie compliquée de l'arrêté de planification qui permet le vote populaire. Viola Amert a loyalement repris les affaires. Sa victoire est knapp, comme disent les alémaniques. Et elle n'a pas convaincu en Suisse romande, mais elle a gagné. Son sourire hier disait son soulagement. Et hier, juste avant 18h, Karine Keller-Souter a donné l'accolade à Viola Amert, tout un symbole qui dit le leadership actuel du gouvernement.
Les femmes sont donc, Serge, l'avenir des partis politiques.
Indiscutablement, en tout cas, les deux femmes ministres PLR et PDC. En lambeaux, après un dimanche de votation, ils ont beaucoup perdu. Les partis gouvernementaux bourgeois, PLR et PDC au moins, feraient donc bien de prendre exemple et de s'appuyer sur leur conseillère fédérale, engagée, souriante, au discours clair, pour se relancer. Et l'UDC, on dira que, faute de conseillère fédérale, elle n'a plus que les yeux pour pleurer. Wally Maurer a presque fait pitié hier au moment de commenter le rejet des déductions fiscales pour enfants. Il a fait trois phrases. Ça a duré 1 minute 12, ponctus.
C'est un recul historique, mais moins important que prévu. Le produit intérieur brut de la Suisse s'est contracté de 7,3% au deuxième trimestre de l'année. La première estimation annonçait une baisse de plus de 8% d'après des indications données aujourd'hui par le secrétariat d'État à l'économie. Le recul n'a toutefois jamais été aussi fort depuis le début des données trimestrielles, il y a 40 ans. Par ailleurs, l'incertitude grandit chez les salariés âgés de plus de 50 ans, alors que la pandémie de coronavirus a de lourdes répercussions sur l'emploi. Le maintien de l'activité professionnelle des seniors est d'autant plus important que le marché du travail fait face en Suisse à une pénurie chronique de main-d'œuvre qualifiée, selon une étude publiée aujourd'hui. 750 dollars et pas un sou de plus, c'est la somme d'impôts fédéraux qu'aurait payé le président américain Donald Trump en 2016 et en 2017. Durant 10 des 15 années précédant sa première campagne présidentielle, l'homme d'affaires new-yorkais n'aurait pas donné un seul dollar à la caisse commune. C'est une enquête publiée hier dans le New York Times qui l'affirme. Le journal jette un pavé dans la mare une trentaine de jours avant l'élection présidentielle américaine et à deux jours d'un débat très attendu entre Donald Trump et Joe Biden. Les précisions de Coraline Kempf.
Donald Trump possède une fortune de 2 milliards de dollars selon Forbes. La bourse bien remplie de l'homme d'affaires new-yorkais fait débat depuis qu'il s'est présenté à sa première campagne présidentielle en 2016. Et pourtant, il n'aurait payé que 750 dollars d'impôts fédéraux cette année-là. Et pas un centime de plus en 2017, sa première année passée à la Maison-Blanche. Ces chiffres émanent de l'enquête du New York Times qui s'est procuré les données fiscales du président en place sur plus de 20 ans. La stratégie du président, selon le quotidien américain, d'abord, il a déclaré plus de pertes d'argent que de gains. Il a aussi appliqué des déductions pour ses résidences, son avion privé et même son coiffeur. Sa mise en pli avant ses apparitions télévisées lui aurait coûté quelque 70 000 dollars. Ce sont des informations bidons, totalement inventées, s'est défendu Donald Trump dans une conférence de presse à la Maison-Blanche. Les déclarations d'impôts du président sont au cœur d'une bataille judiciaire. Donald Trump a toujours refusé de les publier, contrairement à tous ses prédécesseurs depuis les années 70.
Dans le reste de l'actualité internationale, l'évolution de la pandémie de nouveau coronavirus est jugée très inquiétante par le gouvernement allemand, a déclaré aujourd'hui son porte-parole. La chancelière Angela Merkel a évoqué aujourd'hui devant des membres de son parti le risque d'enregistrer à ce rythme en décembre 19 000 cas supplémentaires chaque jour, contre environ 2 000 actuellement, a-t-on appris auprès de membres de la CDU. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 13h. Bel après-midi.